jazz est pas bon.
Mais là, pas bon, mais tu sais, là.
Harry Star Wars aussi, hein.
Prenez soin de vous. Attention aux requins. On se parle demain.
Salut.
Boulevard.
Boulevard.
Te tient informé.
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce. Portneuf. Bellechasse. Saint-Og. La Côte-de-Beaupré. Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement.
Boulevard 102.1, maintenant 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
C'est toujours un privilège et un honneur d'être avec lui chaque lundi depuis déjà plusieurs années. Je pense qu'on est vraiment un des plus vieux couples de la radio. C'est Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, spécialiste des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. Maître Bellemare, bonsoir.
Salut, un vieux couple, parle pas de rumeurs, là.
Bon, écoute, un vieux monsieur avec un jeune homme, ça peut arriver, qui sait?
Ouais, on a 7 enfants, toi et moi réunis, là.
Ouais, c'est ça, on a des grosses familles, on a des grosses familles. Trêve de plaisanterie, Maître Bellemare, c'est un plaisir d'être avec vous en ce lundi. Vous avez passé un beau week-end?
Bien sûr, absolument. Écoute, on rentre dans l'été tranquillement, c'est le fun. C'est vert partout. Écoute, moi, je suis content de voir qu'on rentre dans la très brève période où le Québec est chaleureux en termes thermiques.
Mon ami Samuel Genet de Bas Extermination, qui est une entreprise qui font de l'extermination ou encore qui relocalise, exemple, des marmottes ou encore des moufettes, me parlait qu'on est 2 semaines en retard, presque 3 semaines à peu près sur la saison, en raison des lilas. Lui a observé que les lilas annonçaient le début de la saison pour ce qui est des semis, donc d'ensemencer les champs et tout ça. Et il mentionne que les lilas dans le secteur de Montréal et Québec ont commencé du moins dans les dernières heures. Fait qu'on serait 2 semaines en retard sur la saison, là.
Hey, moi, le lilas, c'est ma fleur préférée, je te jure.
Oui.
Sais-tu pourquoi? Parce que d'abord, elle n'est pas au sol. Elle est dans l'arbre et elle est parfumée et je suis fasciné. C'est probablement la fleur la plus parfumée qui dégage. Il y a un petit vent, là, on sent ça partout. Et malheureusement, c'est très temporaire. Ça dure à peu près quoi, 2-3 semaines. Mais, ouais. Et je trouve que c'est une couleur aussi, c'est dans l'atmosphère. Non seulement c'est dans le parfum, mais c'est aussi dans... visuellement très, très, très beau. Et moi, je vis sur le chemin Saint-Louis et je peux te dire qu'il y en a pas mal sur le parcours. Et Grande Allée, chemin Saint-Louis, là, c'est magnifique. Et oui, effectivement, je suis un fan du lilas. Et malheureusement, ben c'est trop tôt, mais c'est trop court, mais c'est probablement ce qu'on voit le plus rapidement fin mai, début juin. Là, on est en plein dedans actuellement.
Je ne vous connaissais pas comme ça, Maître Bellemare. Vous êtes peut-être un grand romantique. Vous êtes peut-être un plus grand romantique que j'aurais pu penser.
Ben oui, c'est sûr que je suis un romantique. Écoute, moi, je suis un amateur d'art. La semaine passée, j'ai vu Karina Burana à l'Orchestre symphonique de Québec.
Ah, ça, c'est de toute beauté à entendre.
Une magnifique prestation. Écoute, un cœur de chant, là. Je pense qu'il était au total, là, 17, 4. Je pense qu'il y avait 80 choristes sur la scène.
Wow.
En plus des 61 musiciens, en plus de Daniel Taylor, un formidable chanteur. Écoute, oui, je suis un romantique et je suis un amateur de musique, je suis un amateur d'art visuel. Alors, quand tu es amateur de ça, tu n'as pas le choix que d'aller dans les émotions, là.
J'ai 2 choses à vous parler. Je veux vous parler de Christine Fréchette parce que la semaine dernière, on va se le dire, elle a eu une très difficile semaine. Puis je veux vous parler du décès de Claude Lemieux qui a marqué une génération. En fait, qui a marqué plusieurs générations. Moi, je l'ai un peu plus connu chez l'Avalanche du Colorado que chez le Canadien. Très jeune, je me souviens qu'il avait joué pour le Canadien, mais j'ai pas de souvenir là, de 1986 là, où il arrivait dans la Ligue nationale de hockey et ils ont remporté la coupe Stanley. Mais lequel vous choisissez? On commence avec Christine Fréchette ou Claude Lemieux?
Claude Lemieux.
Claude Lemieux. Qui était, ouais, pour vous, Claude Lemieux?
Écoute, un gars, un batailleur, à l'époque, là, 86, les joueurs de hockey y allaient au net. Ils étaient devant le gardien de but, ils mangeaient des coups, ils allaient au net, ils restaient là, puis de temps en temps, ils étaient dans ce lot, dans l'enclave, puis ils étaient capables de faire des bons tirs. Mais le mieux, c'était ça. Et on regarde aujourd'hui des gars comme, on se souvient de Dale Hunter, qui est probablement la tâche la plus connue des Nordiques de Québec, mais je trouve que le mieux avait un plus, parce que ça a été un précurseur.
Ouais.
86, il avait 19 ans, et c'était les séries, c'était la Coupe Stanley, l'avant-dernière Coupe Stanley du Canadien, la dernière étant en 93. Mais Claude Lemieux, c'était un gars omniprésent, dans la zone de l'autre côté, il était fantastique. Et têtu, comme une mule, obstiné, persistant, il rendait absolument fou les défenseurs de l'équipe adverse. Il a réussi un peu en prolongation, si je me souviens bien, contre les Whalers de Hartford, qui sont devenus éventuellement les Hurricanes de la Caroline. C'est un peu dans la même région, en Caroline, en Virginie, dans ce coin-là, dans le Mid-Est américain. Et moi, j'ai un respect incroyable pour ce gars-là. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de son vivant. On aurait pu faire mieux. On voit aujourd'hui des gars comme Gallagher qui vont au net. Et je pense que le Canadien, c'est à peu près le seul joueur qui est vraiment une tâche. Il a vieilli, par exemple. Il n'est pas comme Lemieux était en 86, alors qu'il avait 19-20 ans. Là. Alors, c'est sûr que si Gallagher avait 19-20 ans, il pourrait changer la game, même actuellement, dans la Ligue nationale. Mais en vieillissant, évidemment, il est moins efficace. Et je parle de Brad Marchand, je pense qu'il y en a des tâches un peu partout, mais des tâches, des gars là, qui sont capables d'être devant le gardien puis d'écœurer à mort les défenseurs de l'autre équipe. Je pense que Claude Lemieux, puis il a eu du succès. 2 Coupes Stanley avec le Canadien, je crois. Une avec les Devils, puis une avec c'est qui l'autre équipe, là? Il y a eu 4 Coupes Stanley. Il y a eu 3 équipes différentes. Mais il y en a eu avec les Devils et il y en a eu avec les, je pense, avec le Colorado. Alors, moi, un respect incroyable.
86, après ça, 94-95, c'était avec les Devils du New Jersey. L'année d'après, avec l'Avalanche du Colorado, 1995-96, il a gagné la Coupe Stanley et il est revenu chez les Devils du New Jersey en 1999, début 2000. Il a gagné aussi la Coupe Stanley.
Un joueur de série, Yannick, joueur de série, quand il arrivait en série, il était 10 fois meilleur. On dirait que ça le crinquait, une énergie folle, il avait jamais l'air fatigué, il se présentait tout le temps. Et je te dis, là, toutes les équipes devraient avoir des joueurs comme ça, mais on dirait que ça se perd un peu. Je te dis pas que c'est complètement disparu. On dirait que les joueurs ont peur d'aller au net, ils ont peur de se blesser, ils ont peur de se faire mal, ils ont peur de manger des coups. On est un petit peu plus dans le confort aujourd'hui dans la Ligue nationale, mais ce genre de joueur-là, évidemment, était unique et c'est une perte, évidemment, pour l'humanité, mais c'est une perte aussi pour le hockey. Et son décès va peut-être ramener chez les coachs, chez les directeurs gérants, un certain intérêt pour ce type de joueur-là. On cherche des grands joueurs athlétiques qui ont des bons lancers, etc. Mais on doit chercher ce genre de petites pestes-là aussi. Et il y en a encore dans le hockey. Ils sont probablement moins talentueux que certains, moins prometteurs. Mais quand tu arrives en série, tu es bien content de les avoir.
La fin de vie de Claude Lemieux est très, très sombre. Et ce qui m'a marqué, moi, quand j'ai su le décès de Claude Lemieux et de comment il avait terminé sa vie, Maître Bellemare, j'ai été voir les dernières images parce qu'il était porteur du flambeau du Canadien dans les dernières heures avant sa mort. Et je dois avoir regardé les images à peu près 10 fois, puis ça me marque à chaque fois. Les gens qui souffrent n'ont pas de visage. Les gens qui souffrent sont capables d'avoir le sourire. Les gens qui souffrent sont capables d'avoir de l'air en bonne santé. Ça m'a rappelé l'importance de prendre soin les uns des autres puis de se surveiller aussi parce que, tu sais, on se demande pourquoi les hôtesses de l'air, je sais pas si on est, les agentes de bord dans l'avion nous disent « Gonflez votre veste de sauvetage en premier et ensuite concentrez-vous sur les autres » ou « Mettez votre masque d'oxygène en premier et ensuite aidez les autres ». C'est que d'abord et avant tout, il faut prendre soin de soi pour être capable de prendre bien soin des autres. Soyons alertes sur les gens qui souffrent. Parlons-en si on a des doutes sur des gens qui sont autour de nous qui ne vont pas très bien ou qui commencent à avoir des comportements particuliers, comme donner des choses qui leur étaient chères. Et là, tout d'un coup, ces gens-là donnent leur belle voiture, donnent une belle toile, exemple d'un grand peintre, ou donnent de beaux souvenirs avec le beau grand sourire. Soyez alertes. Puis soyez pas gênés de demander à quelqu'un que vous aimez beaucoup, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu penses que tu serais mieux mort? Des fois, juste de poser des questions, ça se peut que vous ayez des réponses auxquelles vous attendez pas, puis que la personne dise effectivement, j'ai un plan. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir une discussion quand même assez intense. Donc, 1-866-appel, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer si jamais ça va pas bien.
Des fois, ça peut être quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles depuis un bon bout de temps aussi.
Exact.
Et tu as raison, le visage de la santé mentale est très trompeur. Et je me souviens de Gaëtan Giroir, journaliste vedette très connu à l'époque, TVA, LCN, qui faisait l'émission JE sur l'heure du midi, qui était avec Jocelyne Cazin, un gros hit. Là. C'était un très, très gros hit télévisuel. Gaëtan Giroir, un gars qui est à Grenbey, Saint-Hyacinthe, qui était très connu, un beau grand bonhomme, sympathique, probablement la vedette de TVA à l'époque. Et tout à coup, ben voilà. Alors, la pression, tout ça, ben, les grands sourires, hein, de bonne humeur, toujours le bon mot. Puis à un moment donné, oups, il passe à l'acte et puis c'est malheureux. Mais je ne sais pas, dans le cas de Lemieux, il savait probablement qu'il était invité aux Canadiens. Est-ce que ça a joué un rôle aussi, le fait d'avoir cette foule-là, de revivre un peu les émotions d'antan, puis après ça, de retomber dans une certaine solitude? Des fois, ça peut avoir aussi un impact là, dans le high et le low, mais on ne saura jamais. Alors, on peut saluer quand même la carrière sportive de ce joueur tout à fait unique et... probablement irremplaçable à sa façon. C'est un petit Québécois, hein? C'est un petit Québécois. C'est un des nôtres, là. C'est un gars de notre peuple, là. Alors ça aussi, c'est important parce que ça nous montre que dans l'histoire du hockey du Québec, les Québécois francophones, à certains moments, ont joué des rôles importants parce qu'il a été déterminant dans les quatre Coupes Stanley. Ça, je peux te dire ça. Il a été déterminant.
Ouais,
il n'a pas été un joueur là, qui a été chercher sa médaille parce qu'il faisait partie de la gang, là.
Ouais.
Mais il a été déterminant dans l'atmosphère, le go-ahead, on lâche pas, on est solide, et il a joué un rôle déterminant, autant dans les points qu'il avait accumulés que dans son style de jeu et son influence dans le vestiaire.
Ce qui lui a fait peut-être ombrage là, dans quand le Canadien a conquis la Coupe Stanley en 86, c'est plus la Patrick Roy qui sortait de nulle part, puis qu'il était, on l'appelait Casso, il était tout maigre, puis il a réussi à créer quelque chose à ce moment-là. Tu sais, c'est Patrick Roy en fait qui a fait ombrage aux merveilleuses performances des autres joueurs qui étaient sur la glace. C'était quelque chose de nouveau. Il y avait une belle histoire en Patrick Roy à ce moment-là. Là.
Ben oui, c'est sûr, Patrick Roy, c'était le gardien de but. Lui, il a vraiment, on lui doit vraiment cette coupe-là, mais je mettrais Lemieux, sinon sur le même pied, très, très, très près de Patrick Roy, parce que c'est pas Patrick Roy qui comptait les buts, hein. Et c'est pas Patrick Roy qui allait écœurer le goaler de l'autre côté, mais évidemment, on a eu quelques surprises en 86. Jean Perron, qui était le coach à l'époque, avait une équipe qui était assez ordinaire, mais qui s'est révélée être une équipe championne qui est allée chercher la Coupe Stanley. C'est une coupe mémorable à cause justement de ce type de surprise-là, les supplémentaires, les buts en supplémentaire. Voilà, alors ça a été une année extraordinaire pour le hockey québécois. Là. Oui.
Maître Bellemare, je profite de votre expérience en politique pour vous parler de ce sujet-là que j'ai trouvé assez particulier. La semaine dernière, Christine Fréchette a eu énormément de difficultés en tant que première ministre du Québec, entre autres lors de l'étude des crédits où le chef du Parti libéral à l'Assemblée nationale lui posait certaines questions. Et des questions qui sont quand même assez de base, là. La dette du Québec, c'est quoi? Elle était incapable de répondre. Elle ne savait pas non plus que la Coalition Avenir Québec avait augmenté la TVQ sur les produits d'assurance. C'est assez particulier la semaine qu'elle a eue. La question que j'aimerais vous poser, c'est que quand on passe de simple citoyen à député ou encore ministre, quelle est la formation qui vous est offerte pour pouvoir en apprendre plus sur le métier? Puis de quelle façon vous êtes épaulé pour justement que ce genre de situation-là n'arrive jamais?
Oui. Moi, quand j'ai été assermenté en 2003, le sous-ministre s'est présenté avec des cahiers de charges. Il y avait à peu près, tu te souviens de Mme Guilbeault quand elle s'est présentée pour dire qu'elle flochait le troisième lien. Là,
ouais,
c'est cartable d'à peu près un pied d'épais. Là. Mais ça ressemble à ça un peu. Là. Puis là, tu as à peu près une semaine, une fois que tu es assermenté comme ministre, à peu près une semaine avec ton équipe, le sous-ministre, sous-ministre adjoint, pour essayer de prendre connaissance de différents dossiers. Parce que t'es habitué, t'as un certain bagage de connaissances, mais là, tu arrives dans la sphère publique, tu veux savoir quel dossier, tel palais de justice, le système informatique, on en est rendu où, telle accusation, tel dossier au criminel, pour pouvoir répondre aux questions si jamais t'es questionné sur ces dossiers-là. Donc, mais on peut évidemment pas tout savoir. Et je sais que les citoyens, eux, prennent pour acquis que le ministre ou le premier ministre, c'est tout. Et moi, je te le dis, là, on est en 2026. Moi, j'ai été en politique il y a déjà 23 ans. Puis il y a encore beaucoup de monde qui m'appelle puis qui me dit, « Maître Bellemare, moi, je divorce puis je veux avoir vous comme avocat. » Parce que là, j'ai dit, « Écoute, ça fait 15 ans que je n'ai pas plaidé un divorce. Je n'en fais plus de divorce. Je n'ai pas le temps.
Ouais.
J'ai des accidentés, plein mes filières. Ça fait la file jusqu'à de l'autre bord de la rue. Je n'irai pas dans une cour de divorce. » Puis je ne connais pas ça parce que ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait. Mais ça ne se peut pas, M. Bellemare, parce que vous avez été ministre de la Justice. Vous connaissez les divorces. L'autre, il me dit, moi, j'ai une shop je veux installer ça dans une zone agricole et je veux un dézonage. Alors moi, je dis non, je n'en fais pas de ça, monsieur. Je ne connais pas ça. Là. Je ne suis pas là-dedans. Je connais ça comme vous, mais pas plus que vous. Alors, je peux vous référer à quelqu'un qui connaît ça, un avocat, mais non, 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 moi, je veux que ça soit vous. Vous êtes un ancien ministre, donc vous connaissez ça. Les gens prennent pour acquis, parce que tu as été ministre, que tu connais ça. Premier ministre, c'est encore pire, parce que les gens prennent pour acquis que non seulement tu connais l'État du Québec dans son ensemble, dans ses intimes détails, mais tu connais chacun des ministères autant que les ministres sectoriels, agriculture, santé, éducation. Alors, c'est ça le problème. Puis moi, je regarde Mme Fréchette qui ne sait pas la dette nette du Québec. Écoute, Yannick, là, aujourd'hui, moi, j'ai entendu des reportages depuis ce temps-là, parce que c'est vrai que ça frappe un peu. On se dit, comment ça se fait qu'elle ne sait pas ça? Les journalistes, évidemment, partent avec ça en disant, comment ça se fait qu'elle ne sait pas ça? C'est de la question de la dette, 159 milliards qu'on m'a dit. Mais si on m'avait posé la question la semaine passée, quand Mme Fréchette ne savait pas la réponse,
ouais,
je ne l'ai pas su plus qu'elle, même si je sais qu'on est endetté au coton.
Mais moi, je peux vous dire que je suis...
magique, là.
Moi, je suis dans l'actualité au day-to-day, là, puis je peux vous dire que, mettons qu'on se fie au compteur de l'Institut économique de Québec, là, puis on se dit, ouais, mais on ne se pose pas la question combien ça vaudrait si on vendait Hydro-Québec. La dette du Québec actuelle est de 380 milliards de dollars, ce qui représente une dette d'à peu près 53 000 piastres par contribuable. Ouais. Si moi, je sais ça, je m'attends à ce que la personne qui dirige le Québec le sache et je m'attends pas à ce qu'elle soit la meilleure en chiffres, mais je m'attends à ce qu'elle ait un mémo à sa droite pour être capable de savoir ben, c'est quoi le produit intérieur brut, on est à quel pourcentage, où est-ce qu'on se situe par rapport aux États-Unis, où est-ce qu'on se situe par rapport au monde entier. Je m'attends à ce que la première ministre qui gère mon argent, avec Éric Girard, bien entendu, soit au courant de ça. Puis pour ce qui est du 1%, d'augmentation que la Coalition Avenir Québec a mis en place pour ce qui est de la TVQ sur les produits d'assurance, je me dis, mais à quoi sert le Conseil des ministres là, une fois par semaine là, pour tous se rassembler puis se parler de ce qui se passe dans notre parti puis de ce qui se passe au gouvernement, je me dis, elle était où, elle? Elle écoutait-tu? Étais-tu ailleurs? Étais-tu dépassée par les événements?
Surtout que Mme Fréchette, sa pointe d'excellence, parce qu'on a tous une pointe d'excellence, hein? On est tous bons particulièrement dans quelque chose.
Ben, j'essaie de dire ça aux femmes de...
L'excellence, c'est l'économie.
J'essaie de dire ça aux femmes de ma vie, Maître Bellemare, puis il n'y en a jamais une qui m'a dit c'était quoi exactement ma pointe d'excellence, je comprends pas. Mais vous, vous dites, c'est sa branche à elle, l'économie. Là.
Parce que t'es pas assez patient. Des fois, ça prend un certain temps avant, parce qu'il y a beaucoup de pointes d'excellence dans ton cas. Donc, la pointe, donc la super pointe, c'est peut-être un petit peu plus long avant que tes collègues féminines puissent... se prononcer. Ouais. Mais Mme Fréchette, super ministre, elle a remplacé Fitzgibbon, super ministère économique.
Exact.
Les gros dossiers d'argent. Alors, c'est comme si moi, on me demandait, c'est sûr que si ministre de la Justice, on me demandait c'est quoi la peine maximale pour indécence ou pour menace, je ne l'aurais pas su spontanément, à moins de le vérifier. On ne connaît pas toutes les lois et tous les intimes détails, mais on est capable normalement de répondre de façon générale. Puis c'est vrai que la dette, même si c'est la dette nette qu'on disait, il y a plusieurs dettes, hein? Il y a les dettes. Il y a la dette du gouvernement.
Exact.
Il y a la dette des organismes gouvernementaux, les centres de services scolaires, les hôpitaux qui ont des dettes aussi individuellement, Hydro-Québec, la CNSST, la SAC avec des dettes aussi. Alors, c'est quoi la dette nette du Québec? Elle aurait pu dire un chiffre, elle aurait pu avancer quelque chose. Ou demander des précisions à personne qui le questionnait, mais souvent, et c'est intéressant de le noter, en politique, c'est ça, c'est la petite question assassine que tu poses, qui est niaiseuse, qui a l'air innocente, parce qu'elle est là pour dire aux Québécois comment ça se passe dans l'État du Québec, parce qu'elle est la première ministre, mais c'est ce genre de petite question-là, il y en a peut-être une trentaine qui ont été posées, puis il y en a une sur laquelle elle a glissé. C'est ça qui fait la clip du téléjournal le soir, puis c'est ça qui fait qu'on en parle aujourd'hui. C'est sûr que pour l'opposition, ils vont nous rappeler ça à plein. Attends-toi à ce que ça revienne pendant les élections l'automne prochain. C'est sûr que ça va coller. Vous ne savez pas ça, mais vous dirigez le Québec. Donc, vous êtes plus préoccupé pour faire des annonces de 100 millions qui donneront presque rien aux ménages québécois, finalement, en abolissant la taxe sur certains produits.
Mais en fait, mettons qu'on y va de mémoire, là, la taxe supplémentaire qu'on a mis sur les primes d'assurance, donc le 1 % supplémentaire sur la TVQ qu'on a mis sur les primes d'assurance, ça va rapporter 300 millions de dollars à l'État. Et Christine Fréchette nous redonne 96 cents en abolissant la TVQ, 96 cents par semaine en abolissant la TVQ sur certains produits en épicerie. Donc là, je comprends l'équipe marketing, là, ça a quand même bien fonctionné pendant quelques jours, quelques heures, l'équipe marketing, comme quoi elle nous redonnait 50$ par année sur certains produits à l'épicerie. Mais de l'autre côté, on aurait dû lui dire, mais c'est parce que Mme Fréchette, on vient de voler aux contribuables 300 millions de dollars, puis on redonne des miettes, ça se peut que ça sorte, là.
Oui, puis ça s'accumule, Yannick, cette gaffe-là, parce que c'est une gaffe, définitivement. On peut essayer de la comprendre, de l'expliquer, etc., mais c'est difficile, dans le contexte budgétaire dans lequel on est, parce que tout le monde sait qu'on se doit les fesses au Québec.
Ouais.
On est endetté. Tout le monde sait que sous le régime de la CAQ, qui nous avait promis de la rigueur économique avec l'ancien propriétaire président de Air Transat, qui était François Legault, homme d'affaires qui arrive, qui dit « Moi, je suis capable d'aligner des colonnes de chiffres. On va gérer ça correct, le Québec. » C'est un gouvernement économique, avec Fitzgibbon notamment qui arrivait, puis une bonne équipe avec Éric Girard, une bonne équipe financière. On s'attendait à ce que ce soit ça. Ça a été des déficits monstrueux. Ça a été Nordvolt, ça a été sa clique, donc des échecs financiers importants. Et évidemment que quand un parti politique échoue sur sa mission première puis continue de présenter un bilan négatif avec des dépenses excessives, connaît pas la dette, la première ministre qui connaît pas la dette, ça s'ajoute. Si ça avait été isolé, puis si le bilan de la CAQ avait été bon du côté financier, probablement que Mme Fréchette aurait, ça n'aurait même pas sorti cette gaffe-là. Mais là, ça vient c'est un peu la cerise sur le sundae qui vient sur un bilan financier négatif. Les gens se disent, la CAQ ne sait pas compter, mm-hmm. puis ils veulent se débarrasser de ce gouvernement-là qui ne sait pas compter au profit de gens qui, encore, il va falloir le démontrer, parce qu'au PQ, là, il va falloir qu'il nous arrive avec une équipe économique aussi. Les libéraux, c'est la même chose. M. Milliard, c'est un pharmacien. Saint-Pierre Plamondon, c'est pas un homme d'affaires. Alors là, oui, la CAQ a échoué sur l'aspect financier. Oui, les Québécois veulent avoir des colonnes de chiffres qui correspondent et qui s'alignent et qui fonctionnent. Mais là, cet été, là, les deux partis qui sont l'alternative et même le Parti conservateur du Québec, il faut qu'ils arrivent avec des gens qui savent compter. Ça prend toujours une équipe. On se souviendra de l'équipe de M. Bachand avec les libéraux, avec Charest. Il y avait une équipe, tu sais, M. Letao qui arrivait au point de vue financier. Il y a toujours eu une espèce de grappin d'économistes ou d'hommes d'affaires ou de gens d'affaires qui arrivaient avec un parti politique. Mais là, j'en ai pas vu beaucoup qui se pointaient là, dans n'importe quel parti. Est-ce que ça veut dire que les gens d'affaires, les gens qui sont solides en affaires, en économie, on les garde pour l'été, on les garde pour septembre, je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai que la CAQ a des problèmes de ce côté-là, mais les partis d'opposition, à mon avis, ne nous ont pas démontré par des candidats solides en économie qui constituaient, à ce jour en tout cas, une alternative prometteuse.
Maître Bellemare, sujet qui est encore émotif en 2026, malgré le fait que ça date de plusieurs années. Tout le monde se souvient de ça. Un père de famille qui se disait intoxiqué en ayant bu du Lavite, qui a tué ses enfants en les poignardant à 46 reprises. Des enfants de 3 et de 5 ans. C'est une affaire qui avait choqué tout le Québec et surtout que ça touchait quelqu'un qui faisait partie des hautes sphères, là, un cardiologue, Guy Turcotte, l'ex-cardiologue Guy Turcotte, qui veut sortir du pénitencier 17 ans après avoir poignardé ses enfants. On ne peut pas croire qu'on va laisser sortir ce gars-là. Qu'est-ce que ça prend pour sortir un gars comme ça qui a commis de tels actes? Parce que moi, je pensais qu'une sentence à vie, c'était 25 ans minimum avant une possibilité de libération conditionnelle, mais c'était pas assuré que tu allais être libéré, là.
Ouais. Mais c'est ça. Et c'est ça qui m'écœure, moi. C'est que les couvertures médiatiques, très souvent, vont aller à des titres spectaculaires. Prison à vie. Prison à vie. On dit qu'il est emprisonné à vie. Alors, la prison à vie n'existe pas dans le code criminel. Entendons-nous là-dessus. Là.
Ça existe. OK, je pensais que c'était automatiquement un 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle, puis à chaque année, on devait passer devant une commission pour savoir s'ils nous remettaient en liberté.
Non, le 25 ans, c'est le pire crime dans le code criminel, c'est le meurtre prémédité. Tu as toute ta tête, tu prends un couteau, tu t'en vas tuer quelqu'un, puis tu as planifié ton geste, c'est 25 ans. Alors, voilà, c'est 25 ans, puis c'est que Bissonnette, il y a 25 ans parce qu'il y a la mosquée. Il aurait dû avoir 150, à mon avis, là, mais il y a eu 25 ans. Alors ça, c'est un meurtre prémédité. Tu t'en vas avec un gun, tu tires sur quelqu'un, tu veux l'achever, c'est un meurtre prémédité. 25 ans, c'est pas la vie, là. Bissonnette, là, il passera pas sa vie en prison, à moins qu'il meure jeune. Mm-hmm. Il va sortir à un moment donné. Alors, la prison à vie, là, je suis plus capable d'entendre ça, parce que c'est plus ça. Et on nous donne des titres de prison à vie, puis là, les gens disent, bon, enfin, il y a une justice, etc. Mais là, regarde, lui, il a été condamné pour un meurtre non prémédité. Alors, il semble que dans cette affaire-là, c'est le juge André Vincent qui avait dirigé le deuxième procès, Marc David, le juge qui avait dirigé le premier procès, devant jury où le jury avait décidé qu'il était non criminellement responsable parce qu'il avait ingurgité un produit du méthanol ou je ne sais pas
du trop. Du Lavite.
Alors, le juge Marc David avait mal dirigé le jury en disant que le jury pouvait tenir compte de cette défense-là, alors que le code criminel prévoit clairement qu'on ne peut pas invoquer une défense d'auto-intoxication pour justifier un crime. Alors, la Cour d'appel a noté ça, a dit « ça ne marche pas, on arrache tout, on annule tout et on recommence avec le juge André Vincent ». À ce moment-là, il y a eu une conclusion de meurtre non prémédité. Donc, oui, 25 ans, mais admissible en libération conditionnelle après 17 ans. Alors là, lui, ça fait 16 ans qu'il, depuis 2016 qu'il est dans un pénitencier fédéral. À 2016-2026, à ma connaissance, ça fait 10 ans. Là, je ne sais pas, là, on a, puis il n'a pas toujours été incarcéré. Alors, comment on a calculé tout ça? Mais mon Guy Turcotte va pouvoir se présenter en juillet, croyez-le ou non, pour une libération conditionnelle. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas de toute cette mécanique pro-accusé, pro-criminel, un système qui permet d'abréger les délais, d'obtenir des permissions, de demander des ci, de demander des ça, parce que finalement, quand tu regardes le verdict au départ, puis tu regardes après ça, quelques années plus tard, comment ça se passe, tu dis, bien là, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on nous parle d'une prison à vie alors que ce n'est pas le cas? Pourquoi on nous parle de 25 ans alors que ce n'est pas le cas? Pourquoi on en parle de 17 ans avant qu'il soit admissible alors que ce n'est pas le cas? C'est jamais le cas. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que notre bandit est capable de demander des permissions spéciales. Et là, je ne sais pas ce qu'il va demander. Est-ce qu'il va demander de rentrer chez lui? Est-ce qu'il va demander d'aller vivre chez des proches? Une belle-sœur, un beau-frère, un frère, un enfant? Ben non, il n'y a plus d'enfant, mais en tout cas, un frère, une sœur. Est-ce qu'il va demander d'aller en maison de transition? Est-ce qu'il va demander des sorties accompagnées, des sorties ponctuelles? Je ne sais pas. Mais je trouve que déjà que la commission de libération conditionnelle entende Guy Turcotte, moi, ça me jette à terre. Je me dis, c'est pas normal que notre système permette ça. Il faudrait modifier ça. Puis dans le cas de ce genre de meurtre-là, là, il a quand même assassiné ses deux enfants, 46 coups de couteau. Ça montre finalement que notre justice criminelle est, à mon avis, beaucoup trop permissive. On est mûr pour des gros changements dans le code criminel, dans la loi sur les libérations conditionnelles.
Expliquez-moi comment ça fonctionne. Je suis content, j'ai un avocat chaque lundi avec moi, fait qu'il m'explique comment ça fonctionne le droit, mais le droit, là, c'est vraiment canadien, ça.
Oui, c'est le code criminel. Parfait. Toute la mécanique criminelle, c'est canadien. Donc, Parfait. Le code civil, quand tu vends ton char à quelqu'un, c'est une transaction civile, c'est de l'argent, donc une transaction entre deux personnes. Mais quand c'est un acte criminel, donc agression sexuelle, c'est fédéral, c'est le code criminel canadien. Trafic de drogue, c'est le fédéral. Libération conditionnelle, c'est le fédéral. Si la personne est condamnée à une peine de 2 ans et plus, ça s'en va dans un pénitencier fédéral.
Parfait.
Si c'est 2 ans et moins, ça s'en va dans une prison provinciale. Alors, mais le code criminel, c'est fédéral. Et un excès de vitesse, si tu roules à 110 dans une zone de 100, c'est le code de la sécurité routière, c'est pas criminel. Mais si tu roules 220 dans une zone de 50, là, tu risques d'atteindre un niveau criminel. C'est-à-dire que conduite dangereuse, négligence criminelle, et à ce moment-là, il y a des accusations, et tu es passible de peines plus sévères que si c'est un simple excès de vitesse.
Mais Maître Delmore, des fois c'est dans ma tête, là, fait que je compte sur vous pour me remettre sur le droit chemin. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'un crime comme celui que Guy Turcotte a commis, ça se passe en Alberta, puis on n'en entend plus parler avant au moins 25 ans. Puis quand ça se passe au Québec, on se dit, dans 10 ans, dans 12 ans, on devrait en entendre parler, on devrait demander une libération conditionnelle, on devrait lui octroyer, parce qu'on a l'impression qu'au Québec, ils sont plus axés sur, excusez-moi l'expression, la réinsertion sociale.
Oui, on est au Québec. Écoutez, les accusations sont portées, règle générale, par les directions des poursuites criminelles et pénales. Au Québec, il y a à peu près 100 000 accusations qui sont portées chaque année par le DPCP, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Moi, je ne peux pas porter des accusations criminelles contre quelqu'un. Toi non plus. Mais le DPCP, qui est composé de 750-800 avocats, lui, il y a dans chacune des régions. Il est en connexion avec la police. La police rapporte que Guy Turcotte a tué deux enfants, fait un rapport d'enquête. Le procureur de la Couronne décide de porter des accusations. Et il y a le DPCP d'un côté, qui est la poursuite, et il y a l'accusé qui est défendu par l'avocat de son choix, qui s'appelle un avocat de la défense. Au bout de la ligne, il y a un juge qui prend une décision. Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, les statistiques au niveau, par exemple, de la défense qui est privilégiée par beaucoup d'avocats de la défense dans des cas de conditions mentales précaires. On appelle ça la non-responsabilité criminelle. C'est ce qui avait été invoqué par Guy Turcotte dans son premier procès. il y a plus de cas de non-responsabilité criminelle acceptés au Québec que dans d'autres provinces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus, ouvert à libérer un accusé pour des questions de troubles mentaux. En Alberta, tu es obligé de prouver de façon plus claire que tu étais complètement gaga au moment où le crime a été commis qu'au Québec. On est plus permissif. Et c'est vrai qu'au niveau des peines, par exemple, je me souviens quand j'étais ministre de la Justice, mon sous-ministre m'est arrivé à un moment donné dans un cas précis que je ne te donnerai pas le détail, mais qui est très connu. Et il avait dit, on a l'intention de demander dans ce cas-là une peine de X pour un cas d'agression sexuelle sur une mineure. C'est un individu très connu dans la région de Québec. Et moi, j'avais dit, bien là, c'est ridicule, là. C'est quoi cette affaire-là? Là? Je disais, pourquoi juste 3 mois plutôt que plus que ça? Et là, tu vas me trouver de la jurisprudence. Bien, il dit, écoutez, monsieur le ministre, on n'est pas en Alberta, on n'est pas en Ontario ici, on est au Québec. J'ai dit, moi, je veux de l'Alberta, puis je veux de l'Ontario, parce que je veux qu'on soit plus sévère dans les peines qu'on demande. Puis finalement, il avait demandé une peine plus sévère, mais qui n'avait pas été accordée par le juge, finalement. Alors, les juges sont plus permissifs, plus portés à donner la chance aux coureurs, plus portés à considérer des circonstances atténuantes au Québec que dans certaines provinces. Et c'est sûr que quand tu as une province comme l'Alberta, qui est plus conservatrice, qui est plus sévère, plus « tough on crime », comme nous disent les Italiens, « tough on crime », ça veut dire plus « tough sur la peine », plus sévère, « soft on crime », c'est moins sévère. Et je me souviens, quand la loi C-10 avait été adoptée par le gouvernement Stephen Harper en 2010-2011, quand il avait été élu majoritaire, le gouvernement du Québec, avec Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice, Jean Charest, avait demandé au gouvernement fédéral de renoncer à certaines mesures du code criminel que M. Harper entendait adopter pour sévir contre les adolescents. Puis il y avait une délégation du ministre de la Justice du Québec qui avait été à la Chambre des communes pour dire « Nous, au Québec, on ne pense pas comme ça. Il faut réadapter les adolescents. Vous êtes trop sévères. On ne peut pas traiter les adolescents comme des adultes, puis etc. » Et c'est ça, le discours du Québec, c'est plus permissif. Alors, ça se traduit par des exigences du DPCP qui sont moins sévères. On accorde des libérations conditionnelles plus facilement. Les juges sont plus portés à tenir compte de positivement de l'avenir d'un accusé, sa réadaptation, et puis il y a plus d'écoute pour la défense au Québec que dans d'autres provinces, j'en suis convaincu, mais je ne pense pas qu'on change ça. Puis c'est un peu un phénomène social. Ici au Québec, on est plus porté sur la réadaptation que sur l'imposition de peines plus sévères. Tu regardes le discours ambiant. Là, je comprends que quand on voit des dépêches, qu'on voit Guy Turcotte qui se présente en juillet en libération conditionnelle, on est scandalisé.
Ouais.
Mais en même temps, tu as tout un discours d'avocats de la défense, de criminalistes, de chercheurs qui disent que la prison, ce n'est pas une bonne idée, que c'est la formation de criminels, que les jeunes apprennent à commettre des crimes plus facilement en prison, les peines dans la communauté, on est plus lousse là-dessus aussi. Mais c'est le Québec. Puis on est à l'intérieur du Canada qui déjà est plus permissif. On est peut-être dans le spectre gauche de la justice criminelle au Québec.
Et pour un juge, quand on lui propose une cause, exemple, qui s'est passée à Vancouver, puis là, ben, c'est une cause qui est semblable ici au Québec, puis il y a une jurisprudence, parce que là, la sentence qui a été donnée est une sentence exemplaire. Est-ce que le juge est obligé de se fier sur la jurisprudence ou il peut encore l'abaisser?
Non, le juge a toujours plein pouvoir, mais il doit tenir compte de la jurisprudence et ce qu'on appelle le stare decisis, c'est-à-dire la jurisprudence qui provient de tribunaux supérieurs. Il peut écouter et regarder ce qui a été jugé en Colombie-Britannique ou en Alberta ou en Ontario dans des causes similaires, oui, mais normalement, la jurisprudence, c'est celle d'un tribunal supérieur. Donc, on va essayer de convaincre un juge de la Cour du Québec dans un cas d'agression sexuelle, par exemple au Québec, de la jurisprudence qui vient de la Cour d'appel du Québec et qui vient de la Cour suprême du Canada, qui sont les deux paliers, si tu veux, de jurisprudence supérieure à la Cour du Québec. Alors, c'est normalement ces autorités-là que le juge doit considérer. Comme par exemple, il y a quelques années, la Cour suprême a décidé que quand il y avait du plea bargaining entre la Couronne et la Défense, le juge devait accepter les propositions des deux avocats, DPCP et Défense, à moins que ce soit parfaitement déraisonnable. Alors, souvent, les juges vont dire, je trouve ça clément, je trouve la proposition, moi, je n'aurais pas décidé ça, mais je n'ai pas le choix que d'accepter le choix des deux avocats parce que ce n'est pas manifestement déraisonnable. C'est un jugement de la Cour suprême qui a imposé ça. Parce qu'avant, le juge disait, non, je ne suis pas d'accord avec ça, retournez faire vos devoirs, puis vous allez m'augmenter la peine que vous proposez. Mais depuis le jugement de la Cour suprême, il y a comme davantage de plea bargaining et les juges, dans certains cas, même à regret, puis ils le disent expressément, sont comme obligés d'accepter les propositions communes de la poursuite et de la défense, même quand ça leur déplaît.
Puis dernière question technique, est-ce qu'un juge, puis je pense que oui, parce que j'ai déjà entendu une cause semblable au palais de justice de Québec, c'était dans la cause d'Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée, là, le tueur en série de la mosquée, ou tueur de masse, devrais-je plus dire. Le juge qui avait pris la cause d'Alexandre Bissonnette avait défait un peu ce que le gouvernement de Stephen Harper avait mis en place sur les sentences cumulatives. Donc, s'il avait tué, exemple, deux personnes, bien, c'était deux fois 25 ans. Et là, le juge qui avait, je pense que c'est le juge Huot à l'époque, là, François Huot, qui avait dit, bien, c'est des sentences qui sont cruelles pour l'accusé, il faut lui laisser une chance, patati et patata. Puis il avait même critiqué le gouvernement de Stephen Harper d'avoir mis ça en place. Donc, le juge peut techniquement revenir sur ce que le gouvernement lui demande de faire?
Bien, il y a toujours les chartes. Et la charte fédérale, votée par Trudeau père en 82, est venu imposer un certain nombre de règles et est venu dire que le tribunal ne pouvait pas imposer une peine cruelle et inusitée, un châtiment cruel et inusité. Fait que ça a donné aux tribunaux un pouvoir immense,
ben oui, c'est ça,
de décider, même si la Chambre des communes a unanimement voté en faveur d'une sévérité accrue, parce que à l'époque, c'est ce que je te disais tantôt, la loi C-10 en 2011, le gouvernement de Stephen Harper, conservateur, avait voté cette loi-là en disant s'il y a des meurtres multiples, le juge peut additionner 25 ans par crime. Alors, dans le cas de la mosquée, il y a 6 meurtres, donc ça donnait au juge, selon le code criminel, la possibilité d'additionner fois 6, 25 ans, donc 150 ans. Possible. Il n'est pas obligé de donner 150 ans, mais il peut ajouter 25 ans par crime. Alors, le juge Huot avait dit, moi, je ne donnerai pas 150 ans, mais compte tenu qu'il y a 6 meurtres, qu'il y a 6 tentatives de meurtre et qu'il y a beaucoup de blessés, et Turcotte, donc, devrait faire 40 ans. C'est ce qu'il avait décidé. Mais c'est allé en appel, et la Cour d'appel a estimé que c'était 25 ans, point, pour tous les meurtres, et a déclaré, contraire à la Charte fédérale, cette disposition-là qui avait été pourtant votée par la Chambre des communes, unanimement, par un Parlement démocratique au Canada, parce que c'est la Chambre des communes qui vote sur le code criminel. La Cour d'appel a dit non, même si ça a été voté, nous, on déclare que c'est contraire à la Charte parce que c'est inhumain, c'est cruel et inusité, puis on dit que c'est 25 ans maximum. Donc, dans 25 ans maximum, Bissonnette peut sortir. L'affaire est allée devant la Cour suprême du Canada. La Cour suprême a confirmé le jugement de la Cour d'appel, qui fait que Bissonnette s'en sort avec 25 ans. Il en aurait tué 40, il aurait eu 25 ans pareil. Alors, le tribunal, on a une espèce de gouvernement de juge en quelque part. C'est que si le tribunal considère que la loi, donc l'article du code criminel, est contraire à la charte qui prévoit qu'il ne doit pas y avoir de châtiment cruel et inusité, si les juges considèrent que c'est cruel et inusité, ils peuvent déclarer inconstitutionnel, illégal, cette disposition-là, puis l'annuler purement et simplement. Puis c'est ce qu'ils ont fait avec la disposition sur les peines multiples.
Maître Bellemare, la semaine passée, j'ai entendu parler d'un certain Steve Charron que je ne connaissais pas. Steve Charron n'a pas 125 ans ou il n'a pas 153 ans. J'apprends que c'est un criminel de carrière, Steve Charron. J'apprends qu'à un jeune âge, c'est-à-dire il a 43 ans aujourd'hui, il a accumulé 153 condamnations sur à peu près 25 ans et dans les derniers jours, ben, il vient encore de prendre le chemin de la détention. Est-ce qu'à l'intérieur des murs, c'est assez convaincant pour justement empêcher ce genre de délinquant-là de toujours constamment récidiver? Puis il n'y a pas un hôpital psychiatrique pour accueillir ce gars-là? Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'évoluer dans ce système-là.
Mais ça a l'air qu'il n'est pas malade au plan psychiatrique parce qu'il a été condamné dans chacun des 153 cas, nous dit le juge shampoo, je crois, de Green Bay là, dans cette affaire-là. Puis le juge dit, écoutez, vous avez 153 condamnations, puis il me semble que je vous reconnais, M. Charron, je pense que je vous ai vu déjà dans d'autres causes. Et bon, alors, il y a, semble-t-il, parmi les 153 dossiers, d'après la dépêche du Journal de Montréal, il y aurait 17 condamnations pour menaces. Menace, ça veut dire quoi? C'est pas compliqué. Menace, ça veut dire je vais te casser la gueule,
exact.
Je vais te tuer ou faire un geste qui montre que je vais m'en prendre à toi. Et dans ce cas-ci, cet individu-là, semble-t-il, autour du mois de février de cette année, avait mimé un étranglement auprès d'une dame qui n'avait pas répondu à sa satisfaction. Donc, il avait montré comme une espèce de geste qui montrait « je vais t'étrangler », comprends-tu? Alors ça, c'est une menace, évidemment, de dommages corporels. C'est punissable en vertu du code criminel. C'est punissable de 5 ans, les menaces. Alors là, je regarde tout ça et je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que ça fait 17 fois qu'il est condamné pour des menaces, 6 fois qu'il est condamné pour du harcèlement criminel qui est par définition de multiples menaces. Du harcèlement, c'est parce que tu as menacé et tu as tenu des propos, tu as écœuré quelqu'un à satiété pendant plusieurs fois, donc ouais. Il y a certainement un peu d'éléments de menace là-dedans.
J'ai son casier criminel, là. Allons-y rapidement. 15 pour introduction par infraction, 17 pour menace, 15 pour voie de fait, 15 pour méfait, 6 pour harcèlement criminel, 36 pour non-respect des conditions de probation, 42 pour non-respect des conditions, 6 pour entrave à la justice ou méfait public, 2 pour vol simple, 2 pour action indécente, 7 en matière de stupéfiants ou de drogue et 2 pour défaut de se conformer à des engagements de garder la paix.
Oui, mais quand il se présente devant le juge, il y a tout ça.
Ouais.
Il n'est pas accusé d'entrer par effraction. Il est accusé de menace,
ouais.
Yannick. Alors, ça fait 17 fois qu'il est condamné pour menace, c'est à 18e. Comment ça se fait que c'est juste un an qu'il est demandé? Comment ça se fait que le DPCP dit, avec l'avocat de la défense, suggestion commune au juge un an, alors que le code criminel prévoit 5 ans? Est-ce qu'on n'est pas là dans un cas extrême où l'individu n'a manifestement pas compris qu'on devrait le mettre à l'ombre pour 5 ans? Mais ce n'est pas ça qui est arrivé, ça a été un an. Le juge a accepté la suggestion commune, mais le DPCP, il est où là-dedans? Comment se fait que le DPCP se contente d'un an alors qu'il y a de multiples antécédents? Puis le juge a bien compris parce qu'il dit « je vous reconnais, vous là, puis voici la liste des infractions qui sont citées ». Mais il est aussi accusé d'action indécente parce qu'il s'en va quelque part, il rencontre une dame, il dit « bon, je me cherche une blonde ». Et il se met à se masturber la main sur le pantalon devant la fille. Action indécente. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. C'est une action indécente. Le code criminel prévoit une action indécente, 2 ans maximum. Mais là, c'est sa 3e fois. Il a déjà été condamné 2 fois pour une action indécente.
Exact.
Comment ça se fait qu'on parle d'un an en tout et partout pour l'ensemble de ces accusations-là, alors qu'il y a des antécédents? C'est un récidiviste. Il ne comprend pas. Et je ne sais pas, la sévérité est où, là? C'est ça que je pense qui ne marche pas dans le système. Et je pense que c'est le DPCP, en quelque part, qui doit faire sa job. Regardez ce genre de dossier-là, puis dire, monsieur le juge, voici le bilan criminel de cet individu-là. C'est un criminel d'habitude. C'est un récidiviste. Il ne comprend pas. Je vous demande d'imposer la peine maximum. Pourquoi pas 5 ans? Moi, je pense que ça aurait été satisfaisant. Mais là, il s'en sort au bout d'un an. Il ne fera pas un an, on le sait tous. Il va arriver quelque chose, il va bien se comporter en prison, il va pouvoir sortir prématurément, on va le revoir dans le trafic, puis à un moment donné, ça ne sera pas 153 infractions, ça va être 200 puis 250. C'est un individu manifestement qui ridiculise le système judiciaire. Il faudrait, je pense, que le système judiciaire réagisse à ça. Ce genre d'individu-là qui méprise le système, au mépris aussi de l'intérêt public, parce que c'est des femmes qui sont victimes de ça, en quelque part. Les menaces, l'intimidation, les actions indécentes, ça nous montre jusqu'à quel point on est tolérant et on est clément. Puis le rôle du système judiciaire, ça ne doit pas être d'être tolérant et d'être clément. Jusqu'à un certain point, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et personnellement, moi, ça m'inquiète.
J'ai l'impression qu'il y a certains individus qui passent régulièrement devant les juges qui devraient être à l'asile jusqu'à la fin de leur jour plutôt que tout le temps passer devant la justice. Puis c'est des coups à chaque fois que ça implique. Ça reviendrait meilleur prix si ce gars-là était entouré de gens qui peuvent s'en occuper, ouais, qui peuvent être bienveillants à son égard, puis qui sortent jamais.
C'est important de noter, Yannick, qu'il n'y a pas de non-responsabilité criminelle. On a affaire à un gars dérangé. On n'a pas affaire à un gars qui n'est pas conscient de ce qu'il fait puisqu'il est condamné à chaque fois. Il est coupable à chaque fois. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Il n'a pas plaidé qu'il était fou. Il n'a pas plaidé qu'il était dément. C'est simplement un antisocial, un individu qui méprise le système et qui s'amuse. Alors, parce qu'autrement, il y aurait eu une non-responsabilité criminelle, puis il serait à l'hôpital sur les pilules plutôt que d'être dans une prison.
Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca est avec nous comme à chaque lundi. On parle de dossiers qui touchent l'actualité. On va faire une très courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Gravel, dans le retour.
Donc, Claude Lemieux qui s'est enlevé la vie à l'âge de 60 ans du côté de la Floride. Trois nuits à peine après sa présence au Centre Bell lundi soir avec le flambeau bien haut. T'as beau avoir gagné 4 Coupes Stanley dans 3 uniformes différents. Quand tu files pas, tu files pas. Puis quand tu files pas, ben faut que tu parles. Coach Jean Perron, bonjour. Parlez à ceux qui connaissent pas Claude Lemieux.
Les plus gagnants, spectaculaires, top, gros patineurs, agitateurs, tout ce qu'un coach peut désirer avoir pour gagner des matchs dans les finales de la Coupe Stanley.
C'est-tu une bonne analogie de dire que c'était le Brad Marchand de son époque?
Oui, oui. Et après sa carrière, il s'ennuyait tellement de hockey, il est allé jouer en KHL en Chine. Il a viré le club à l'envers, puis il a tellement bien fait que les Sharks de San Jose lui ont donné un autre contrat, peux-tu imaginer?
Oui, puis c'est un ancien joueur des Red Wings de Détroit avec qui s'est coltaillé une couple de fois qui a écrit tantôt « Si tu tournes ton dos à Claude Lemieux sur la glace, t'es un maudit fou. Mais dans vie, hors de la glace, je suis le premier à tourner le dos puis à être en totale confiance. »
Ah oui, oui, oui.
Gravel dans le retour, tous les jours en semaine, 14h.
Merci, Coach Perron.
OK, bonne journée.
Ce segment d'émission est présenté par Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits Steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre 499,99 $. Ce segment d'émission est présenté par Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits Steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre 499,99 $.
Boulevard 102.1. Okay. Vous le savez, Max est parfois un champion pour se mettre les pieds dans les plats et créer des froids en studio. Le point positif là-dedans, c'est Max Larouche qui vous a préparé ça ce matin. Ça pourrait vous faire gagner une thermopompe Lennox 12 000 BTU offerte par EnviroConfort. Écoutez l'extrait.
Ta chasse aux Pokémon, là, qu'est-ce qui se passe?
Je cours une minute, je chasse des Pokémon une minute. Je cours une minute, je chasse aux Pokémon une minute. Là, ceux qui m'ont volé, là, il y a Pokémon Beauport 66.
OK, il est name drop.
Pour participer au concours, inscrivez Pokémon au blvd.fm pour gagner votre thermopompe et être au frais cet été sans avoir les froids créés par Max.
Et ce, grâce à EnviroConfort.
Si t'écoutes la radio puis que tu viens de te dire
« Encore une pub! »
C'est un signe que t'as faim. Va chez Valentine.
Bonjour, ici Carole. Comme je sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut mille mots qui disent. Un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau gros X. Un feu de camp pas éteint, quinte-toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben un gros X là-dessus aussi.
Excuse Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio.
T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair.
Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Attendre des semaines pour avoir un rendez-vous pour l'entretien de son véhicule électrique, c'est pas la situation parfaite. Passez donc chez Desharnais. Pour les véhicules à moteur, hybride ou électrique, Desharnais, c'est juste parfait.
Cet été, transformez votre cour avec Moreau PRS. Solarium Sun Space, fenêtres 3 saisons, auvent, pergola, rampe, patio et bien plus. Une bonne nouvelle, la nouvelle succursale de Lévis est maintenant ouverte. MoreauPRS.com.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abba-extermination.ca, ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD.
Boulevard. 102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous ce soir de chez bellemareavocat.ca. On parle de dossiers qui touchent l'actualité. On parle de dossiers qui touchent un peu monsieur et madame tout le monde. Allez-vous, faites-vous encore du vélo, Maître Bellemare?
Je comprends. Je viens de m'acheter des belles culottes. Là.
Ah oui? Est-ce que vous vous rasez le poil des jambes pour aller plus vite sur la route, Maître Bellemare?
Non, pas du tout. Non, au contraire, mon poil est bien collé parce que je mets de la crème pour pas attraper des mélanomes.
Ouais.
Et ça tape le poil sur la peau.
OK, donc...
Pour parler de même, parce que tu mets pas de crème, là. Tu vas avoir des cancers de la peau, là.
Oui, c'est ça. Mais je suis pas quelqu'un qui s'expose beaucoup au soleil. J'ai jamais été dans un salon de bronzage. Fait que jusqu'à maintenant, ouais. je me considère correct. Mais quand je vais en vacances, bien sûr, quand je sais que je vais avoir une longue exposition au soleil, je mets de la crème solaire. Mais assez parlé de cette petite crème, parce que c'est pas la spécialité de notre émission. Vous vouliez nous parler de la loi concernant les vélos sur la route?
Oui, je vais te parler de la loi parce que les vélos commencent à sortir et vont sortir de plus en plus.
Maître Bellemare,
oui.
Vous êtes avocat, vous êtes un ex-ministre de la Justice. Est-ce que vous faites vos stops quand il y a des stops à faire et vous êtes à vélo, Maître Bellemare?
Non, moi, je suis le bras de marchand du vélo. Quand il n'y a pas d'arbitre, je passe free, mais je regarde, par exemple, j'ai une bonne tête. Je regarde, mais je vais te dire, je regarde les nids de poules parce qu'il y en a plein. Je regarde les cracks, je regarde la roche, je regarde la vitre.
Bon.
Je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en vient de l'autre côté, mais je vais ralentir. Mais c'est pas vrai que je fais un stop complet.
Voilà.
Écoute.
1001, 1002, 1003, puis on repart, Maître Bellemare. Il faut respecter le code de la sécurité.
Quand je prends la côte dans le chemin Saint-Louis, là, dans le bout de Pidouze, là, après Pidouze, là, je vais te dire en affaire, arrêter complètement un stop, c'est mortel, j'en ferai pas de vélo. Tu veux garder un certain beat, fait que tu ralentis. Je comprends que c'est pas légal, puis je comprends que tu vas me dire finalement, puis moi je te le confirme, qu'on doit arrêter au feu rouge, on doit faire nos stops complètement. Quand on est en vélo. On est comme dans un véhicule automobile. Les mêmes règles, sauf exception, mais les feux rouges, les stops, on est supposé les faire complètement.
Y a-tu déjà un policier qui vous a reconnu, Maître Bellemare, qui vous a dit là, Maître Bellemare?
Une fois. Une fois dans le Vieux-Québec, il m'a reconnu. Elle m'a reconnu, c'était une femme. Et il y avait un arrêt, puis je ne l'avais pas fait. Puis il y avait un groupe de vélos, puis elle m'a jasé ça un petit peu. Mais ils sont un peu plus tolérants en vélo, les policiers, heureusement. Mais, évidemment. Mais là, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce qu'on peut, à vélo, se promener sur une autoroute?
Non.
T'es sûr?
Oui.
T'as raison. Les voies d'accès pour l'autoroute, juste l'entrée. Est-ce qu'on a le droit dans l'entrée de l'autoroute ou dans la sortie de l'autoroute d'être à vélo?
Si seulement une femme pourrait me dire ça souvent, comme vous me le dites, que j'ai raison, j'aimerais tellement ça. Est-ce qu'on peut... Non, les vélos n'ont pas d'affaire là.
OK. Sur une rue normale, est-ce qu'on peut circuler en sens inverse à vélo?
Ça dépend des cas.
Ah, OK. Dis-moi ça, là.
S'il n'y a pas de trottoir, je pense que vous pouvez circuler sans ce contraire.
Non, tu dois circuler dans le sens de circulation, sauf s'il y a des travaux routiers, puis que là, la circulation t'amène nécessairement du côté inverse.
Bon.
C'est ça la règle. Est-ce que tu peux te promener entre deux véhicules?
Oui.
Mettons que tu as deux rangées de chars. As-tu le droit d'aller entre les deux automobiles à vélo?
Oui.
Oui?
Je dirais oui pour se positionner pour des raisons de sécurité. Vous devez vous positionner devant le véhicule si vous devez continuer votre chemin plutôt que tourner à droite, exemple.
Non, mais s'il y a deux rangées d'auto, là, comme sur Grande Allée, il y a deux rangées d'auto, tu as-tu le droit d'aller entre deux chars?
Si c'est sur une ligne droite, Maître Bellemare, je pense que non. Mais si c'est à un carrefour, exemple, puis il y a un véhicule qui est en positionnement pour virer à droite, vous avez le droit d'être à gauche de ce véhicule-là qui veut virer à droite. Dans cette circonstance-là, je pense que vous avez le droit, parce que c'est sinon, sans quoi, ce serait épouvantable. Là, les vélos se feraient ramasser par les conducteurs de camions, exemple, qui traînent des remorques derrière.
Oui, mais normalement, c'est pas supposé. Tu n'es pas supposé te promener entre les véhicules. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le code de la sécurité routière. Dans les faits, il y a peut-être des situations où c'est un peu plus ambigu.
Bien, à une lumière, vous comprenez ce que je veux dire à une lumière, Maître Bellemare, c'est que le vélo doit se protéger constamment. C'est le plus petit sur la route. Là. Donc, pour que ce soit plus sécuritaire, quand tous les véhicules sont à l'arrêt, s'il doit continuer son chemin, il ne faut pas qu'il soit dans l'angle mort du camionneur qui, lui, doit virer à droite. Là. Sans quoi, ils vont tous se faire écraser, Simonac.
Tu as raison. Exactement. Est-ce que tu as le droit d'avoir des écouteurs?
Non.
Pourtant, il y a plein de monde en vélo qui ont des écouteurs.
Coupable, monsieur le juge.
C'est vrai?
Ouais.
Tu mets des écouteurs, toi, tu écoutes de la musique.
Même dans mon casque de moto, Maître Bellemare, j'ai des écouteurs. Dans mon casque de moto, j'ai des écouteurs intégrés avec un son que je peux pas trop monter parce qu'il faut que j'entende qu'est-ce qui est autour de moi. Mais dans mon casque de moto, j'ai un appareil qui me fait jouer de la musique, là.
Je pense qu'en moto, c'est pas comme en vélo, parce qu'en vélo, c'est interdit.
En vélo, c'est interdit. En moto...
Des écouteurs et des systèmes électroniques que tu taponnes en même temps que tu roules.
Ouais.
Parce que... Puis il y a une autre situation.